des polars et des notes.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Évasion pour une heure de littérature noire en ce numéro de printemps de Des polars et des notes. Printemps particulier où le bruit des bottes des militaires chassant le merle moqueur semble devoir remplacer les trilles annonciatrices des hirondelles. Le Nouveau Monde a décidément un goût étrange de déjà-vu. Particulier donc, mais printemps tout de même, il fait beau et bien pourvu en romans. Comme à l'accoutumée, vous retrouverez toutes les références des livres dont nous allons parler sur le webzine 404. Laura, en boss du son, tient la console et nous pouvons passer aux interviews d'auteurs, aux chroniques et à la musique extraite des romans. Allez, avant de commencer, je voulais vous parler du roman très noir, magnifiquement écrit, qui touche un sujet plus que sensible avec un réalisme et une pertinence époustouflante. Son titre, c'est « Abattage » de Lisa Harding, qui va paraître le 28, je crois, aux éditions Joël Losfeld. Ce thème, c'est la traite des êtres humains et plus particulièrement celle des jeunes filles mineures recrutées ou achetées à leurs parents par des réseaux mafieux. Et dans ce roman, c'est avant tout une histoire, hein, c'est pas un documentaire, c'est une vraie histoire, mais on apprend des choses extraordinaires et horribles. On y suit le parcours de deux d'entre elles, Samy, qui est une Irlandaise de 15 ans, et Nico, une Moldave de 13 ans. Deux gamines qui n'auraient jamais dû se rencontrer et qui vont se retrouver dans la même maison de prostitution à Dublin. Il faut lire Abattage, d'abord parce que c'est un splendide roman, ensuite parce que Fermer les yeux est ce qu'il y a de pire. Et en plus, il y a de la musique comme Cypress Hill, Insane in the Brain.
Insane in the membrane.
Comment une jeune femme, Alex, la quarantaine tranquille, parvient suite à un drame à se substituer à sa victime, à la faire vivre à travers elle, c'est la gageure du dernier roman d'Elsa Marpeau, Son autre mort, paru chez Gallimard dans la collection Série Noire. Elsa, qui était déjà venue nous parler de son précédent roman, et Ils oublieront la colère, dans lequel il était déjà question d'appropriation du corps de l'autre. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Alors, qui est donc Alex ?
C'est une jeune femme qui d'abord est normale, sauf qu'elle souffre d'une sorte de phobie sociale, donc il l'éloigne beaucoup des autres. Néanmoins, ça ne l'a pas empêché de fonder une famille. Donc elle a deux enfants, un mari, une vie relativement tranquille, quoique solitaire. Et elle a monté un gîte rural dans le 44, en Loire-Atlantique.
Mais elle, un petit peu aussi, enfin, elle écrit un petit peu des nouvelles qu'elle n'ose pas ni faire lire ni publier. Et puis elle est fascinée par Dupont de Ligonnès.
Oui, tout à fait. Alors, elle a toujours voulu écrire, en effet, bon, c'est très important dans la suite de l'histoire, puisque d'une certaine façon, elle va y réussir, hein, de façon complètement paradoxale et complètement amorale, voire immorale, mais elle va quand même réussir à écrire une œuvre. Et puis, elle est fascinée par Dupont de Ligonnès, alors entre autres parce qu'ils viennent de la même ville, ils viennent de Nantes tous les deux, bien sûr, ça ne suffit pas. Il y a aussi cette idée d'une grande normalité qui partage et partageait plutôt tous les deux, c'est-à-dire que Dupont de Ligonnès, hein, c'est le bon père de famille, nantais, catholique, marié, etc., comme elle, à sa façon, est une femme rangée, on pourrait dire.
Il y a l'idée d'effacer tout et de recommencer.
Elle a évidemment, c'est pas dit, Dupont de Ligonnès, c'est ce que ça permet de dire, c'est que au fond, ce qui va se passer à la suite du drame, c'est à la fois terrifiant pour elle, mais à la fois ça correspond à un désir secret de casser la monotonie du couple, on va dire. Alors elle, c'est de façon extrêmement, extrêmement brutale, puisque c'est en tuant un homme, mais il y a quand même ce rêve de revivre une aventure, quoi, des choses qui font un petit peu, qui font un peu frissonner, même si elle ne peut pas se le formuler.
Et donc, dans sa maison d'hôte, arrive Charles Berryer, qui est un écrivain ultra célèbre, du style à être invité à On n'est pas couché. Qui écrit très bien, qui est un petit peu une caricature du pervers narcissique charmeur, qui séduit le mari, qui essaye de séduire son hôtesse, etc.
Tout à fait, son hôte aussi d'ailleurs.
Tout le monde.
Tout le monde, il a une caractéristique, c'est de ressembler un petit peu à un ogre, il est très très grand, il mange beaucoup, il boit beaucoup. Il est très excessif, très sympathique, très bon vivant, effectivement totalement, totalement charmeur. Il a aussi un autre côté très positif, c'est son écriture, c'est-à-dire qu'il écrit sublimement bien, il a une prose magnifique pour parler de la France invisible, on va dire. Bon, c'est des termes qui deviennent aujourd'hui un petit peu galvaudés, on va dire, ou la France périphérique. Mais néanmoins, il sait très bien parler de ça. On pourrait aussi dire des âmes grises, quoi. C'est celui qui parle très bien des âmes grises. Et Alex admire énormément cet écrivain, jusqu'à découvrir son double maléfique, puisque dans le livre, il y a beaucoup de questions de double maléfique, puisque cet homme va essayer de la violer le soir de ses 40 ans.
Et un peu, Berryer, c'est l'irruption du bruit, de l'exubérance, de l'appétit dans un milieu qui est complètement silencieux et feutré.
C'est ça.
C'est le pavé
c'est
dans la mare.
C'est l'irruption de quelqu'un d'autre qu'on ne peut pas oublier, quoi. C'est vraiment l'autre dans toute sa splendeur, alors qu'Alex, elle a fait tout pour essayer de pouvoir vivre sans les autres, en fait, à l'écart des autres.
Et donc, bon, il y a cette tentative de viol, Alex le tue, etc. Et elle décide de prendre sa place, enfin de continuer à le faire vivre pour ne pas être poursuivie, bien sûr, quand il n'y a pas de mort, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas d'assassinat. Et là, j'ai eu l'impression que vous passiez un petit peu à l'étage au-dessus, ils oublieront la colère. Il y avait l'appropriation du corps des femmes par les vainqueurs, enfin, etc. Et là, c'est carrément une substitution.
Oui, complètement. Parce qu'en fait, il y a cette idée du double maléfique et au départ qu'on croit être celui de Berryer. On se dit, il a cette face d'écrivain sublime et puis la face maléfique, en fait, de l'homme violeur. Et puis finalement, au fur et à mesure du récit, on se rend compte que le double maléfique, c'est aussi celui d'Alex, puisque Alex va le tuer, bon, pour défendre sa peau, effectivement, mais elle va complètement l'ingérer, si je peux dire, et prendre sa place. Donc elle, qu'on a cru au départ être la victime de viol,
elle est aussi
une femme un peu qui a été utilisée. En fait, elle va le faire vivre, en effet, et puis complètement absorber sa vie, quoi. Donc devenir elle-même le double maléfique de Berryer.
On a l'impression un petit peu que par la tentative de viol, il a fait naître
un monstre.
Parce que tout d'un coup, elle change de nom, elle devient Léo.
Ouais.
Elle, qui était complètement renfermée, devient ce qu'on peut faire de plus communicant, une agent qui contacte tout le monde, qui se rend partout, qui rencontre de plus en plus ses proches. Elle est exactement le contraire.
Oui, tout à fait. Bah, alors dans tout le roman, il y a le thème de Jekyll et Hyde, évidemment, je parlais du double maléfique. Bon. Il s'incarne beaucoup là-dedans. Berryer, il écrit quelque chose sur une sorte d'adaptation contemporaine de Jekyll et Hyde. Et c'est ce que va vivre l'héroïne. C'est-à-dire que ce qui fait naître Berryer par ce viol, c'est Hyde, en fait. Chez Alex, elle était une charmante mère de famille, vaguement un peu palote, quoi, pour ne pas dire ennuyeuse. Et puis tout à coup, elle va devenir un autre personnage complètement flamboyant, celui d'une meurtrière aussi. Et qui va aller vers un chemin quand même très pervers.
Et au fur et à mesure qu'elle se rapproche du noyau familial de Berryer, petit à petit, il y a des scrupules qui arrivent. C'est-à-dire qu'elle croise des personnages, par exemple, parce qu'elle connaît absolument par cœur l'œuvre de Berryer, et elle reconnaît les personnages. Tout d'un coup, ils prennent chair. Et petit à petit, ça devient de plus en plus dur pour elle.
Alors absolument, donc ce qu'elle va faire, c'est, donc là c'était vraiment pour jouer avec les codes du polar, mais c'est une enquête à rebours, puisqu'elle va essayer d'enquêter dans la vie de Berryer pour voir qui d'autre qu'elle, alors que c'est elle la meurtrière, aurait pu le tuer de façon au fond plus crédible. Donc elle va chercher des suspects, en fait, et puis un bon meurtrier et un bon mode opératoire. En ce faisant, donc elle va s'approcher de sa vie, rencontrer les proches de Berryer. Et Berryer, comme tous les écrivains, en fait, c'est une sorte de vampire, quoi. C'est-à-dire qu'il suce le sang de ses proches, il les utilise pour en faire des personnages de fiction. Et donc Alex reconnaît à la fois ses proches et puis aussi ses personnages. Et puis petit à petit, évidemment, il y a un brouillage qui se fait entre la vie et la littérature.
Mais il y a aussi plusieurs scènes qui sont assez drôles. C'est quand elle essaie, sur les réseaux sociaux, de donner une mauvaise image de Berryer. C'est-à-dire qu'elle balance une série de tweets absolument abominables sur les femmes et sur limite raciste, enfin, etc. Et ça marche pas. C'est-à-dire que juste en ce moment, il y a par exemple l'affaire de la brigade du LOL, etc. Et on s'aperçoit que les gens sont d'une très grande mansuétude quand c'est une star. Parce que il est particulier, c'est un artiste, il n'a pas voulu dire ça. Lui, c'est forcément du deuxième degré.
Oui, puis alors, il n'y a pas que ça, parce que donc je dois dire que tous les tweets qu'elle poste, c'est des tweets que j'ai trouvés sur Internet. Hein, je ne les ai pas inventés. Oui, absolument, mais bon, ça crée absolument aucun...
Mais ils sont abominables.
Très peu de remous. Et alors, l'histoire, elle est inspirée de l'histoire tout à fait réelle de Médine Eklat, qui n'est pas non plus une énorme star, hein, qui était un petit jeune, qui a commencé à devenir un peu célèbre du Bondi Blog. Sauf qu'on s'est rendu compte que depuis des années, tout le monde le savait dans le milieu journalistique, on s'est rendu compte qu'il tweetait sous un pseudo, mais qui était quand même relié à son Twitter personnel, des remarques homophobes contre les femmes, contre les juifs, etc. Donc c'était voilà, et j'en passe. Vraiment extrêmement violente. Et que sa défense, ça a été de dire, mais en fait, c'est mon double maléfique qui tweetait. Donc j'ai utilisé un pseudo pour exprimer en moi, donc le double maléfique, c'est lui hein, qui emploie ce terme. En gros, il dit, voilà, j'ai utilisé un pseudo pour je sais pas comment dire, pour créer, enfin, à but de création, et puis à but un peu cathartique, quoi. Et tout ça, ça a été accepté pendant des années, jusqu'à ce que Johann Sfar s'en émeuve un jour. Point. Mais s'il s'en était pas ému, alors qu'il y avait des femmes, par exemple, qui avaient dénoncé ses propos, il s'était rien passé. Et puis tout à coup, on sait pas. Alors il est allé quand même très très loin hein, en disant qu'il fallait qu'Hitler revienne pour finir le boulot pour les Juifs, etc. Enfin vraiment,
oui.
C'était d'une très très grande violence. Et personne ne s'en est ému. Donc là, j'invente rien. Hein. Enfin au contraire, je suis vraiment en deçà de la vérité.
Et il revient, il est sur les plateaux à l'heure actuelle où il est en train de continuer à expliquer que c'était pas lui finalement, c'était pas vraiment lui, etc. Donc effectivement, oui. Il y a une très très grande mansuétude des médias.
Très très grande. Vous voyez, c'est une sorte d'habitude maintenant de ce qu'on appelle en langage de Cyril Hanouna le clash, le buzz, etc. Donc du coup, bah, y a une sorte de surenchère comme ça, tout ce qu'on a le droit de dire. Bon, pour la Ligue du LOL, c'est effectivement la même chose. C'est pas des gens qui sont célèbres, pourtant c'est juste. On se disait bon, bah oui, effectivement, Twitter, Facebook permettent des expressions comme ça qu'il faut prendre au second degré. Et sinon, bah, on est quelqu'un de trop sérieux et on est disqualifié. Parce qu'il faut évidemment absolument pratiquer le second degré en permanence.
Et donc Alex, après toutes ces expériences, qu'est-ce qu'elle y gagne à tout ça?
Alors qu'est-ce qu'elle gagne en fait? C'est ce qu'on voit, parce que le jour de son viol, c'est le jour de ses 40 ans. Donc... tout ce qu'on peut voir là-dedans, on pourrait le lire comme une sorte de crise de la quarantaine, un petit peu exacerbée, hein, bien sûr, parce qu'on n'est pas tous obligés d'en passer par le meurtre. Mais néanmoins, il y a quand même cette idée-là, et cette idée de qu'est-ce qu'elle gagne, de façon un petit peu détournée, elle gagne à, dans cette vie bien rangée, pouvoir vivre une aventure exceptionnelle, pouvoir devenir ce qu'elle a jamais réussi à faire, c'est-à-dire devenir un auteur, puisque elle va accaparer la vie de Berryer au point de terminer son livre. Et donc là, elle devient lui, en fait, vraiment jusqu'au bout. Donc elle arrive à créer ce qu'elle n'avait pas créé jusqu'au bout. C'est d'écrire un livre, et d'écrire un livre qui, on pense, va être une grande œuvre. Et puis juste de vivre une aventure, à l'issue de laquelle, il y a cette idée un peu comme ça, inspirée de l'Odyssée, hein, sans du tout vouloir comparer. C'est presque même... parodique, mais qu'elle va aller vivre loin de chez elle, des immenses aventures, avant de revenir ou pas au sein du foyer.
C'est l'archétype de l'écrivain.
C'est l'archétype de l'écrivain qui va vraiment vivre ses aventures.
Voilà.
On va dire, voilà, c'est une quadragénaire en crise, en gros, qui va vivre de façon très très excessive cette crise.
Eh bien, merci beaucoup, Elsa Marpaud. Je rappelle
merci.
Le titre de votre ouvrage, c'est Son autre mort, qui est paru chez Gallimard dans la collection Série Noire. Et puis, il y a des titres de musique aussi, dont Chanson pour Anna de Daniel Guichard.
Oui, absolument. Qu'aime absolument l'écrivain, donc qu'adore Charles Berryer.
Eh bien, en ces temps d'antisémitisme exacerbé, on va se l'écouter.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Elle s'appelait Anna, rappelle-toi. La plume courait entre ses doigts. Elle écrivait des mots d'amour et de foi, car elle avait 13 ans, Anna. Elle se cachait dans un grenier, Anna. Si chaud l'été, l'hiver si froid. Un horizon de quatre murs et un toit. Elle écrivait pourtant, Anna, ces mots-là. Moi, j'ai un jardin rempli de fleurs, un monde d'amour tout en couleurs, que je fais vivre en mon cœur. Que je fais vivre en mon cœur. Elle avait souvent peur, Anna, en écoutant les bruits de pas, des pas qui s'approchaient trop près, quelquefois, trop près de son grenier. Anna, chante-moi. Moi, j'ai un jardin rempli de fleurs, un monde d'amour tout en couleur que je fais vivre en mon cœur, que je fais vivre en mon cœur. C'est par un beau matin d'été, je crois, qu'ils sont venus chercher Anna. Ils ont laissé juste un cahier, les soldats, un journal dont les mots Anna sont pour moi. Moi, j'ai un jardin rempli de fleurs, un monde d'amour tout en couleurs, que je fais vivre en mon cœur, que je fais vivre en mon cœur.
La chronique que vous attendez tous, les romans de Dance Floor. Hello Dance.
Bonjour.
Alors le troisième âge est intenable, on le sait bien. Et c'est
oui,
ce que
ça.
Tu nous confirmes dans les deux romans que tu nous proposes aujourd'hui. Deux romans aux rimes riches d'ailleurs, Céline et La Voisine.
Exactement. Oui, c'est vrai, je n'avais pas fait le rapprochement, mais effectivement ce sont des vieilles dames à chaque fois. Alors Céline, donc c'est un roman de Peter Heller, traduit de l'anglais par Céline Leroy chez Actes Sud. Et Céline, eh ben, c'est une détective privée. Ben oui, une femme détective privée hein, avec un flingue, l'intention de s'en servir si nécessaire. Elle est spécialiste de la recherche des personnes disparues et figure-toi qu'elle a un taux d'élucidation supérieur à celui de la CIA. C'est pas mal, non ?
Ouais, enfin, quand on voit la CIA, non plus, c'est pas...
Ne sois pas désagréable, s'il te plaît.
Non, non.
Pays de Trump, quand même.
Oui, d'accord.
Elle a 68 ans, en fait.
Ouais, bah, elle est jeune, quoi.
Ah bah ouais. Une jeune femme, Gabriella, vient la voir et lui demande d'effectuer des recherches sur son père, disparu il y a longtemps, dévoré par un ours, dit-on, dans le parc de Yellowstone, alors qu'il faisait des photos animalières.
Ah, ça, bon, c'est ballot, fait, ça.
C'est ce qu'ont dit les autorités. Hein. Mais de là à ce que ça soit la vérité, c'est bien. Alors voilà Céline partie avec Pete, son mari, à la recherche du père de Gabriella. Mais elle s'aperçoit vite qu'ils sont suivis par un jeune agent du FBI et elle comprend donc que l'affaire va se corser. Mais au lieu de la dissuader, c'est un plaisir de plus. Et puisque c'est sa dernière enquête, pourquoi se le refuser ?
J'imagine le mec en costard-cravate avec les lunettes noires dans le parc du Yellowstone, ça doit être extraordinaire.
En fait, il fait plutôt du camping, il a plutôt l'air d'un randonneur ou quelque chose.
Ah, c'est pas un Men in Black ?
Non.
Ah, déçu.
Non, mais il est athlétique quand même. Hein.
Ouais, mais déçu quand même.
Alors, Céline et son mari forment un duo... très tendre, adorable et pourtant très très perspicace, absolument téméraire et résolument branché nouvelles technologies, les puces, les GPS, tout ça, rien n'a de secret pour eux.
Donc,
l'enquête, oui ?
Oui, non, vas-y.
L'enquête nous emmène dans les grands paysages de l'Ouest américain, à bord d'un truc que j'adorerais avoir, un pick-up camping car, ça a l'air absolument génial, je rêve de l'emprunter moi aussi.
Ils ont ça chez Daesh.
J'arriverai jamais au bout de cette chronique. Vers les ours mangeurs d'hommes et les secrets d'État, finalement, pas si bien gardés que ça.
Alors,
c'est un roman qui réussit à être à la fois intimiste avec l'histoire de Céline et sa famille, une histoire dont le père est absent là aussi, et pleine de rebondissements et de scènes d'action. Oui, même Céline. Il touche à la fois l'histoire personnelle de Céline et à celle des États-Unis, encore plus sombre et que le gouvernement est très, très, très désireux de cacher.
Donc Céline, un voyage au bout de la nuit, puisque c'est très sombre, de Peter Heller aux éditions Actes Sud, et maintenant La Voisine
de Yewande Omotoso, traduit de l'anglais par Christine Raguet chez Zoé. Alors on change complètement, là c'est l'Afrique du Sud, le Cap, un quartier blanc et prospère, des villas, des jardins magnifiques, entretenus par toute une domesticité noire. Et oui, oui, c'est comme ça que ça se passe même aujourd'hui, hélas.
Ouais, en France cette aussi.
Oui.
Oui.
Cette oasis de racisme tranquille, dont profite Marion, une riche veuve, a été perturbée par l'arrivée d'Hortensia, seule propriétaire noire. Au fil des années, Marion et Hortensia, les voisines, donc, vont s'affronter régulièrement et en particulier aux réunions de propriétaires mensuelles. Elles ont chacune eu une vie professionnelle intense. Marion était architecte et Hortensia designer. Elles ont toutes les deux eu beaucoup de succès dans leur profession, mais elles se haïssent et s'affrontent avec le plaisir qu'on peut trouver à lutter contre aussi fort que soi.
Wow.
Marion, ouais, bah ouais. Marion est désormais veuve et seule, car aucun de ses quatre enfants n'est proche d'elle. Ça te laisse présager un peu de la personne.
Ouais, elle est un peu chiante, quoi.
Sa vie ne la satisfait pas, malgré son aisance. Et d'ailleurs, elle va bientôt se trouver ruinée grâce aux placements hasardeux ou à cause des placements hasardeux de feu son mari.
Ouais.
À côté, Hortensia, sans enfant, voit son mari s'éteindre petit à petit. Et un de ses seuls divertissements, désormais, est la guerre farouche qu'elle livre à Marion. Seulement voilà, les hasards de la vie vont les obliger à unir leur destinée et à ranger leurs armes si possible. Les deux femmes sont à la fois comiques dans la lutte qu'elles se livrent et vraiment attendrissantes quand elles montent les défauts de la cuirasse. Et leur histoire commune est de celle qui donne confiance en l'être humain. Cependant, le roman parle aussi de l'apartheid et de la société de l'Afrique du Sud actuelle qui, malgré tout, persiste dans son racisme et sa ségrégation.
Et qui est un des pays les plus dangereux du monde.
Ouais. Ouais, c'est un très très beau roman, à la fois touchant, drôle et grave, parce qu'il montre que les ravages de l'apartheid sont loin d'être résolus, en fait.
Ouais, ici non plus. Merci beaucoup, Dance. Et donc, en musique, eh ben dis donc, on tombe sur Franz Ferdinand Céline. Ah non, c'est pas ça. C'est Franz Ferdinand.
Non, c'est Franz Ferdinand tout court.
Bah, je te laisse dire le titre, hein, parce que...
Take Me Out.
Merci beaucoup, bon après-midi.
Je t'en prie, bon après-midi.
connaît l'histoire de la French Connection marseillaise, ne serait-ce qu'à travers le film avec Gene Hackman, mais peu, dont moi, savait que le Havre avait été le décor d'un trafic de même nature, une fois celui de la cité phocéenne stoppé par la police. C'est cet épisode de la vie mouvementée de la ville portuaire que raconte Philippe Huet dans son polar Une année de cendres, paru aux éditions Rivage. Bonjour Philippe Huet,
oui,
merci
bonjour.
D'être avec nous. Le Havre, donc, Eldorado du crime.
Bah, en fait, le Havre, oui, Eldorado du crime, juste après la libération, peu de gens savent qu'on, donc, le Havre, une fois, pratiquement, toute la ville a été détruite, hein, pratiquement en 44, et donc, le port, notamment, et donc, ensuite, il a fallu rapatrier, juste après la guerre, les soldats américains, les GI, par le port du Havre, notamment. Et donc, avant de les rapatrier, ils ont campé dans ce qu'on appelait les camps cigarettes, les bien nommés, puisque c'était Philippe Maurice, Marlboro, par dizaines et dizaines et dizaines de milliers, pendant, disons, on va dire, 2 ans, dans cette ville qui était complètement exsangue. Et les GI, eux, les boys, étaient vraiment cousus d'or. Et donc, ça a créé une espèce d'onde de choc, avec des vases communicants complètement délirants. Ce qui fait que, comme d'habitude, les Américains laissaient sur place le matériel avec, mais alors, mais c'était par tonnes et par centaines de tonnes. Et donc, ça a donné lieu à tous les trafics et à tous les abus, notamment prostitution, trafic, devises, etc., et trafic de matériel. Et donc, des gangs se sont organisés, évidemment, pour cueillir un peu toute cette récolte.
Et donc, c'est ce qui a attiré deux bandits corses, Ange Antonetti et Baptiste Lanzi, qui sont envoyés par leur hiérarchie pour monter un trafic là-bas, puisqu'il y avait de l'argent à prendre, il fallait y aller. Et donc, on les retrouve. Votre livre commence 15-20 ans plus tard.
Oui, en fait.
À l'arrivée des containers.
Voilà, en fait, j'ai passé une vingtaine d'années, parce que ce qui est sûr, c'est que le Havre des paquebots, puisque ça a été le premier, le plus grand port transatlantique du monde, avant New York, dans les années 70-80, jusqu'à l'avènement des avions, et les paquebots, la fameuse French Connection passait notamment par la ligne maritime, les lignes maritimes et notamment les paquebots pour transporter la drogue. Et donc il y a eu une espèce de va-et-vient, enfin plutôt de direction Le Havre, enfin continent européen vers les États-Unis à l'époque, pour transporter la drogue. Donc ça ne se faisait que par petite quantité avant les conteneurs, évidemment, enfin petite quantité relativement, des valises ou des trucs comme ça, mais là évidemment avec les conteneurs, véritable révolution, pas seulement maritime, pas seulement commerciale, pas seulement économique, mais également évidemment révolution pour le trafic en tout genre. Et ce qui existe toujours d'ailleurs, hein, il faut savoir que les conteneurs sont vraiment un panacée incroyable pour les trafics en tout genre.
Et donc, Antonetti et Lanzi, ils sont devenus des notables, hein, des caïds locaux, ils ont ouvert des discothèques, des bars, des restaurants, et ils sont vieux aussi, surtout
bah oui.
Antonetti, il en a marre, mais il y a la mafia corse qui tient absolument à ce qu'ils mettent en place un nouveau réseau, et ils sont bien embêtés parce qu'ils ont des concurrents libanais.
Il faut savoir que contrairement à Marseille, évidemment, au sud, la ville du Havre est une ville discrète par excellence, et qu'on n'aime pas du tout faire de bruit, et que toute la ville clandestine était très 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 bien dissimulée. Hein. Il n'y avait jamais d'éclat. Il a fallu des années avant de se rendre compte que le Havre était, comme on disait à l'époque, vraiment une plaque tournante pour le transport. Et donc c'est vrai que tout le monde s'est installé là-dedans, alors qu'on parlait beaucoup donc évidemment des labos de Marseille, etc. On parlait très peu du Havre, et de temps à autre tout de même on trouvait curieux d'arrêter des gens comme ça à l'arrivée à New York notamment, ou à l'arrivée du Canada, qui transitaient par le Havre tranquillement. Et donc voilà, c'est un peu ce que j'ai voulu raconter, parce que j'ai été journaliste journaliste, mais mes premières années, je les ai faites au Havre, donc dans les années 70-80. Et donc, j'avais des histoires comme ça, des histoires à raconter, et des témoins des vieux journalistes qui me racontaient des histoires de trafic de drogue absolument incroyables. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu un peu à partir d'un socle réel, à partir d'une vérité, après délirée, évidemment, dans le cadre d'une fiction.
Bah ça se sent que vous avez été journaliste, parce qu'effectivement, c'est un jeune journaliste, Gustave Mazurier, Gus, qui est un peu un des héros du livre. Et puis Bernard Coutard, alias Nanar, qui est un typographe retraité, atrabilaire, mauvais coucheur, et qui va mettre un bazar pas possible dans les petits arrangements et le plan stratégique qu'avait prévu Antonetti. Et tout ça, c'est... Il y a un côté drôle et en même temps un côté très triste dans votre roman. C'est la fin du jour, c'est le crépuscule pour la vieille garde.
Oui, bah c'est un peu... Je suis un admirateur, vous savez, des vieux westerns à la Sam Peckinpah sur les vieux cow-boys qui terminent un peu, qui sont un peu dépassés. Bah, c'est un peu la même chose en ce qui concerne le banditisme. Il y a le crépuscule des dieux et le crépuscule des vieux, et qui sont toujours dépassés, évidemment, dans l'éternelle lutte des anciens et des modernes qui arrivent sur le marché. Et c'est vrai qu'ils ont du mal un peu à assimiler ce nouveau trésor des conteneurs. Parce que tout change évidemment, l'informatique, la manière dont le trafic maritime devient complètement ultra moderne et ultra suivi, et donc ils en sont encore aux vieux courriers maritimes qui n'avaient pas du tout les mêmes vérifications ou les mêmes objectifs, quoi.
Mais ce qui est marrant dans votre roman, c'est que c'est pas la technologie qui va tout faire capoter, c'est un pauvre mec qui va à la pêche, quoi.
Ça, c'est pareil, c'est des personnages que j'ai connus, la vieille classe des typographes, ce qu'on appelait la noblesse de la classe ouvrière, qui a bien disparu là. Et effectivement, je prends toujours pour modèle, moi, je pars jamais de rien, ou d'une couleur, ou d'une chanson, ou d'une ville, notamment, bah, la ville du Havre, oui, qui passe souvent dans mes papiers, lapsus, dans mes bouquins, comme le premier personnage, de toute manière, du bouquin. Et c'est vrai que là, bon, à partir de là, le fameux Nanar, j'en ai connu quelques-uns, qui étaient donc des typographes en couleur de la haute époque. Et donc voilà, donc je me sers de tout ça pour essayer d'écrire ce que j'aime bien dans mes bouquins, enfin dans les bouquins de ce style. C'est ce que Blondin, parce que Blondin est un écrivain que j'admire énormément, appelé la légèreté profonde. Et donc j'aime beaucoup, enfin j'essaye de faire passer des trucs plus profonds qui n'en ont l'air, dans une espèce de truculence, dans une espèce de légèreté souriante, voilà. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire.
Vous y arrivez, parce qu'en fait on en arrive, mine de rien, avec ces petites histoires de trafic, on en arrive un peu à de la géopolitique, à la position de la France à cette époque-là, oui, vis-à-vis de la guerre civile qui se déroulait, ouais, au Liban.
Bah, de la même manière, j'ai été grand reporter et j'ai couvert notamment, enfin entre autres, cette guerre du Liban entre 1976 et 1982. J'y ai fait de nombreux séjours, et donc à l'époque où il y avait des attentats terribles, et c'était vraiment très 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 dur également. Et donc c'est fait de trafic de drogue. Chacun sait que pour soutenir les seigneurs de la guerre, maintenant on parle beaucoup des diamants en Afrique, et bien à l'époque c'était la drogue, notamment dans la vallée de la Beka, etc. Et c'est une réalité, c'est-à-dire que il fallait nourrir les seigneurs de la guerre, acheter les armes, etc., et pouvoir faire face.
Oui, et en plus, pas de chance, il y a un flic, bien sûr, puisque c'est un polar, et il s'appelle Cozzoli, et il est corse, et ouais, il est bien embêté quand même, parce qu'il a des pressions de partout pour laisser tomber, quoi.
Oui, voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon héros, Gustave Mazurier, et Cozzoli également, ont déjà fait l'objet de plusieurs polars en ce qui me concerne, et il commençait à vieillir depuis les années 90-92. J'ai dû écrire une 7-8 polars avec ces héros récurrents, et je me suis dit que ça devenait un peu gênant de les voir vieillir. Moi, j'aime bien voir évoluer mes personnages, je les aime pas les voir figés. Et j'ai donc eu l'idée de faire un bond en arrière, et de retrouver Gus et Cozzoli en pleine forme et dans leur toute jeunesse, pour pouvoir après les faire évoluer d'une manière normale, enfin disons, dans leur vie. Donc c'est un peu ça qui m'a guidé, c'est que j'ai J'ai raconté des polars avec Gus et Cosoli dans les années 2000, hein, 2000 par là, et là je me suis dit, tiens, je vais revenir complètement à une époque beaucoup plus ancienne, avec des personnages de fougueux, tout feu, tout flamme, quoi.
Ah, ça, pour être tout feu, tout flamme, ils le sont. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Huet. Donc, je rappelle, votre roman, c'est Une année de cendres, qui est paru aux éditions Rivage. Et dedans, il y a plein de jazz.
Ah oui.
Et plein d'autres musiques. Et nous, on va s'écouter It's Wonderful de Bill Coleman.
Super.
Qui est cité dans le livre, bien sûr.
Bien sûr, que j'ai bien connu.
Merci beaucoup.
Ok, au revoir. Au Havre, un port, c'est le meilleur endroit pour sentir le vent d'ailleurs, ce qui tombe bien puisque le coin des éditeurs est consacré aux éditions Vent d'ailleurs et à la naissance de sa collection noire, Vent Noir. Pour nous la présenter, son cofondateur Gilles Colleux. Bonjour Gilles.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, et vous-même?
Merci, dans le vent, on a du Mistral ici.
Ah d'accord, bah, nous ici en Bretagne il fait beau. Donc pourquoi donc une toujours. Nouvelle collection alors qu'il en existe déjà tant?
Ben oui, bien sûr, c'est un petit peu comme la question qu'on pose, mais pourquoi encore un livre alors qu'il y en a tellement, tellement dans les librairies?
Mais oui,
en fait c'est parce qu'on est un peu incorrigible. D'une certaine façon, on a toujours des idées à défendre et les auteurs ont beaucoup d'imagination. Et puis surtout, comment dire, Vendailleurs, c'est construit sur un catalogue lié à l'ailleurs, bien sûr. Alors ailleurs, c'est peut être au coin de la rue. Hein. Ailleurs, c'est à la fois à Marseille, en Bretagne, à Tombouctou, à Madagascar. Ça peut être très 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 loin ou très 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 proche. Mais ce qui est toujours important dans l'ailleurs, c'est qu'il y a la confrontation avec l'autre. C'est-à-dire l'autre dans sa culture, dans sa pensée, dans sa manière de faire, dans sa manière de ne pas penser tout à fait de la même façon aussi. Bref. Ailleurs, c'est quand même pour nous toujours un magnifique terrain d'imaginaire, de lecture, etc. Alors, pourquoi donc une nouvelle collection de polars ? Bah, tout simplement parce que on nous l'a demandé pendant très longtemps. Et c'est vrai que nous avons publié beaucoup de littérature, de la poésie. Et puis on a des auteurs qui ont publié un peu de polar. Alors on en a publié quelques-uns, un petit peu comme ci, comme ça, sans trop dire que c'était du roman policier, ayant d'ailleurs bien du mal à cataloguer nous-mêmes la différence entre littérature dite plus blanche et littérature dite plus noire.
Ouais, c'est de plus en plus dur, ça.
Oui, voilà, c'est ça. Donc on a finalement un jour décidé qu'on allait créer, enfin un jour, il n'y a pas très longtemps, ça nous a pris quelques mois, on s'est dit, bon voilà, on a quand même beaucoup d'auteurs qui nous sollicitent, qui aimeraient bien être plus identifiés autour du polar, pour pas dire roman policier, pour pas dire thriller, moi j'ai beaucoup de mal avec ces catégories, sous-catégories, mais en tout cas, où effectivement l'ailleurs est toujours présent, bien entendu, mais c'est un ailleurs dans une littérature peut-être plus de genre, une littérature avec des histoires, avec des choses à raconter, avec des choses qui se passent, etc., etc. Et donc on avait un peu envie de faire ça, de mettre ça en avant. Alors on l'appelait vin noir parce que bah, nous on est porté par les vents et puis bah, celui-là va nous aider un peu plus à faire une petite catégorie, même si on n'aime pas trop les catégories, de faire une petite catégorie dans le catalogue qui serait celle d'une collection un peu plus orientée vers les histoires où il se passe des choses des fois parfois affreuses.
Donc vous êtes voilà. En recherche d'auteur.
Alors on est toujours en recherche d'auteur parce qu'on aime toujours lire des nouveaux textes, bien entendu. Oui, on est toujours en recherche d'auteur, même si on est très sollicité, puisqu'on reçoit de très 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 nombreux manuscrits par an, hein, un peu plus de 1000. Mais on est toujours ravis de lire de nouveaux textes, bien sûr.
Français ou étranger ?
Français et étranger. On ne se fixe pas de limite. La seule chose par rapport à l'étranger, c'est qu'il faut évidemment qu'il soit publié dans une langue qu'on peut lire. Donc on peut lire l'anglais, on peut lire l'allemand, on peut lire l'espagnol, on peut lire un peu l'italien, on peut lire un tout petit peu certaines langues asiatiques, comme le coréen, mais voilà, d'autres
langues. C'est déjà pas mal.
Je maîtrise pas. C'est déjà pas mal, voilà, c'est déjà pas mal.
Et donc la ligne éditoriale, c'est que ça parle d'ailleurs.
Ça parle...
Dans la définition que vous aviez donnée tout à l'heure.
Voilà. Comment ?
Dans la définition que vous avez donnée tout à l'heure.
C'est ça, voilà. C'est ça.
Et donc le premier, je crois que c'est le premier, c'est le Cavalier Hilar.
Alors le Cavalier Hilar, oui.
Et pour le coup, qui parle d'ailleurs, puisque ça commence dans la steppe soviétique, et le vent, il souffle dur, et pas que le vent d'ailleurs, les balles aussi.
Oui, ah oui, oui, c'est une histoire absolument incroyable, où on a comme ça un fuyard quelque part, hein, quelqu'un qui s'enfuit comme ça des combats et qui se retrouve en pleine steppe et d'un seul coup il voit comme ça un convoi qui un convoi allemand qui est d'un seul coup bombardé et se retrouve en plein milieu de tout ça et il se rend compte que finalement ce convoi allemand qui était au milieu de nulle part comme lui était un convoi qui transportait de l'or. On ne connaît pas l'origine de l'or, mais à la limite, on peut s'en douter. Et donc, c'est un véritable trésor qui était là, avec des lingots, etc. etc. Et donc, il s'improvise terrassier, maçon, mécanicien. Il récupère les morceaux d'or, il construit un bunker avec les restes de camions.
Ça, c'est fantastique,
etc.,
en plus.
Etc. Ah oui, oui. Ah non, mais c'est une description. Enfin, nous, quand on a lu ce manuscrit, mais on s'est retrouvé, on en lit beaucoup, hein, mais on s'est retrouvé à ne pas le lâcher. Quoi. On voulait absolument savoir, mais comment il va sortir de cette histoire d'or ? Et puis finalement, il construit sur ce tas d'or. Je passe les détails, évidemment. Puis
ah ouais, faut tout, pas tout donner raconter. La fin parce que
voilà, bah, évidemment, bien entendu. Donc il va construire comme ça une énorme sculpture pour pouvoir le récupérer. D'où le cavalier Hilar. Je passe le détail de pourquoi un cavalier. Et puis on perd sa trace et on retrouve plus tard dans un quartier de Marseille où il est sûrement à moitié fou, on ne comprend pas très bien, on ne sait pas trop bien de quoi il parle. Il côtoie des junkies, doux rêveurs, il côtoie des amateurs de fumettes avec les grands crus du genre, etc. Et lui se retrouve dans tout ça. Et puis petit à petit, on voit que, bah, évidemment, hein, on est sur une histoire, donc les choses vont se rassembler à un moment ou un autre, et on va... Voilà, cet or va évidemment être un peu...
Il va réapparaître.
Par d'autres personnes, il va réapparaître. Voilà. Et j'en dirai pas plus.
Non. Il a la lucidité de la folie.
C'est ça.
Et les prochaines sorties, donc ?
Alors, d'autres sorties, oui. Alors, un livre qui est déjà paru dans le catalogue, devant d'ailleurs, mais il y a très longtemps, très longtemps, qui n'avait pas forcément été... identifié, parce que justement c'est un vrai polar, mais on ne nous attendait pas là. C'est un livre de Sunjata qui s'appelle Kalashnikov Blues.
Joli titre.
Très joli titre. Alors là, avec un détective, un commissariat dans un pays d'une Afrique qu'on nomme pas forcément tout de suite. Enfin, c'est un livre assez réjouissant. Et puis un autre encore qui va venir, qui lui aussi, on l'avait fait paraître il y a quelques années, qui s'appelle Les cloches de la brésilienne. Alors là, ça part de Gary Victor, qui est une sommité haïtienne. Et Gary Victor, il a écrit un roman policier avec un inspecteur alcoolique, complètement désespéré, et qui enquête sur le vol du son des cloches d'une église. Je parle bien du son des cloches. C'est-à-dire que c'est pas les cloches qu'on a volées, mais c'est le son. C'est-à-dire que quand elles tonnent, on les entend pas. Voilà. Donc ça part de quelque chose qui paraît absolument absurde, pour pas dire un peu du genre merveilleux, ce qui est quand même une des spécialités aussi de Gary Victor. Mais on va se rendre compte que tout ça finalement a du sens. Et bien sûr, là, le vaudou arrive un petit peu. Voilà, les grandes divinités haïtiennes arrivent ici aussi à ce moment-là. Bref, là, c'est très, 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 très réjouissant. Et voilà. Bon. Et puis d'autres titres qui sont en train d'arriver. Un titre français d'un auteur qui est proche de chez nous. Et puis un autre marseillais. Bref, petit à petit, voilà, les choses sont en train de se constituer. On a prévu de publier 4 titres par an maximum. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup, Gilles Colleux. On en connaît un peu plus sur Vent Noir, auquel on souhaite bon vent, évidemment. Et puis, on va se quitter avec un titre que j'ai piqué dans le Cavalier Hilar, qui est,
très bien.
Qui est Blue Hotel de Len Lovitch. Merci beaucoup, bon après-midi.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
On se quitte sur ce cavalier hilar parcourant la steppe soviétique, mais pour se retrouver le mois prochain avec d'autres romans tout aussi croustillants. Lisez bien en attendant, bye bye!
Des polars et des notes.